Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25, heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours avec nos invités. Nous essaierons de comprendre à quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons Madame Élisée Odia, elle est journaliste indépendante. Bonjour Madame Élisée Odia.
Bonjour aux auditeurs de la radio onusienne. Bonjour Guy Maté, c'est toujours un plaisir de vous retrouver.
Maître Frédéric Kouamba, membre de la société civile, il est avocat au barreau de Kinshasa Gombe, il est également membre du conseil d'administration de l'ONG Afia Mama Asbel. Bonjour Maître Frédéric Kouamba. Voilà, apparemment il est parti en ligne depuis Washington, capitale des États-Unis. Abdourahmane Dia, journaliste à la Voix de l'Amérique, présentateur de l'émission Washington Forum. Bonjour Abdourahmane Dia.
Bonjour Guy et bonjour à tout le monde.
Merci à tout de suite pour la rétrospective de 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours des 7 derniers jours de la semaine.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42-502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42-502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Madame Élisée Odia, journaliste indépendante, Maître Frédéric Kouamba, membre de la société civile, il est avocat au barreau de Kinshasa Gombe, il est également membre du conseil d'administration de l'ONG Afia Mama Asbel, et en ligne depuis Washington, capitale des États-Unis, Abdourahmane Dia, journaliste à la Voix de l'Amérique et présentateur de l'émission Washington Forum. Au menu de cette émission, visite du président burundais Evariste Ndayishimiye en RDC et la coopération sécuritaire régionale, rentrée scolaire 2023-2024 et convocation par la CENI du corps électoral pour la présidentielle. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire sur le dossier primaire à Gold. En effet, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a nié lundi 28 août en bloc les accusations portées contre le gouvernement congolais sur l'exclusivité accordée à l'entreprise primaire à Gold de DRC SA pour l'exploitation de l'or artisanal. Il a fait cette mise au point au cours d'un point de presse tenu à Kinshasa. Nicolas Kazadi répondait ainsi au député national élu de Bukavu, au sud Kivu, Alfred Maïcha, et du coordonnateur de la fondation Panzi, docteur Denis Mukwege, qui dénonce les contrats entre le gouvernement congolais et Primera Gold de DRC. Alfred Maïcha reproche au gouvernement d'avoir accordé les monopoles d'achat, de commercialisation et d'exportation de l'or artisanal de la RDC et du coltan pendant 25 ans à Primera Gold RDC à un moindre coût. Ce député national vient d'adresser une lettre écrite au ministère des Finances, à celle du portefeuille et à celle des mines au sujet de ces contrats. Élisée Odia, que vous inspire ces jeux de ping-pong entre les gouvernements à travers notamment les ministères des Finances et les députés nationaux Alfred Maïcha au sujet du contrat que le gouvernement congolais vient de signer avec l'entreprise Primera Gold?
Qu'est-ce que ça m'inspire? Je me dis qu'on est peut-être encore loin d'une forme de transparence, surtout s'agissant des industries minières ou des entreprises minières ici dans notre pays. Il faut se dire que si nous en sommes arrivés là, c'est parce qu'en amont, il n'y a pas eu une très bonne communication de la part du gouvernement. On a l'impression que le gouvernement de la République démocratique du Congo est plus dans la réaction que dans l'action. Et ça, c'est pas une première fois. Donc, l'idéal aurait été de voir le gouvernement jouer carte blanche, jouer la transparence dans tout ce qui est contrats, surtout dans le domaine minier ici en République démocratique du Congo. Je crois que cette affaire a justement l'avantage de relancer quand même ce débat-là sur la nécessité de traçabilité de tout ce qui concerne les mines ou les ressources minières ici en République démocratique du Congo. C'est vrai que moi, je suivis la conférence de presse, j'étais restée sur ma soif. J'ai vu plus que les membres du gouvernement et voire même de la présidence étaient venus peut-être plus pour en finir avec le docteur Mukwege, le prix Nobel de la paix, que pour répondre sur vraiment les questions des fonds posées au travers de la lettre écrite adressée aux différents ministres. On s'attendait à plus, à mieux que ça, à mieux, c'est-à-dire essayer de nous expliquer. C'est vrai, à la fin, on a vu certains chiffres, moi, comme je l'ai dit, je suis restée sur ma soif parce que je ne savais pas d'où provenaient ces chiffres. On m'a dit du gouvernement, mais le gouvernement, c'est quelle structure, ça remonte encore. Donc j'étais quand même restée sur ma soif. Quant au fond de problème posé ou mis sur la table par le député, j'ai vu le ministre Kazadi et M. André Wamisso venir plutôt se servir du briefing pour répondre au prix Nobel de la paix, que vraiment essayer de dissiper tout malentendu ou toute controverse autour de ce sujet. Donc j'espère que, parce que c'est une lettre écrite, ils auront à répondre par écrit aux députés nationaux, parce que c'est des us et coutumes, c'est comme ça que ça se passe, au-delà de tous ces spectacles médiatiques qui nous arrangent, nous les journalistes, on ne peut pas s'en plaindre, mais il y aura quand même des réponses beaucoup plus élaborées pour essayer vraiment et définitivement tirer au clair, pas seulement la problématique de Primera, parce qu'il ne faut pas oublier, au-delà de monsieur le député, il y a également la société civile qui déjà depuis un temps dénonçait ce contrat-là. Donc on peut dire que c'est pour telle ou telle autre raison, mais la société civile, que ce soit du Sud Kivu, en tout cas de la partie Est de la République, dénonçait déjà ce contrat-là. Moi j'attends, je suis restée un peu sur ma soif, mais également ça nous permet à nous de continuer, en fait nous en tant que journalistes, en tant que société civile, de marteler sur la nécessité pour notre pays, pour le gouvernement de notre pays, pour ceux qui nous gouvernent, de veiller sur la transparence de tout ce qu'il y a comme contrat ici.
Elze Odia, 25 ans de monopole accordé à une entreprise privée et de manière irrévocable, avec injonction à la RDC de promulguer une loi appropriée pour les consacrer, des exonérations et réductions des tarifs fiscaux à 0,25%, ça paraît quand même invraisemblable.
Ben oui, parce que c'est là où on se retrouve comme dans l'affaire Sicomine, bise au contrat chinois. Est-ce qu'on est en train de répéter ce que certains ont eu à décrier, notamment via le contrat chinois, quand vous suivez par exemple le rapport de l'IGF, on vous dit que c'était un contrat signé en défaveur de la RDC, un contrat qui a été dénoncé, décrié par les actuels tenants du pouvoir ici en République démocratique du Congo, mais on a l'impression, au regard quand vous lisez et quand vous suivez ce que vous venez de dire, c'est comme si on s'est inspiré du contrat chinois avec Sicomine pour essayer justement de signer un autre contrat, 25 ans, monopole. Voilà, c'est l'éternel recommencement. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt se servir de ce qui n'a pas marché dans les précédents contrats pour faire mieux? Mais là, on se rend compte qu'on est en train de répéter l'histoire, mais pas de la plus belle de manière, 25 ans. C'est un peu trop, surtout dans un pays comme le nôtre et dans une partie qui est comme la RDC. On sait que cette partie échappe un peu au contrôle du gouvernement central, pas toute la partie, mais il y a une bonne partie des coins et recoins de cette partie de la RDC qui échappe à la mainmise de l'exécutif national. Et puis, autre question, comment j'aurais pensé, est-ce que ces contrats ont été examinés au niveau de l'Assemblée nationale? C'est vrai que le député a adressé une lettre écrite. Moi, j'aurais bien voulu que ça soit dès la rentrée, la dernière session parlementaire, qu'il puisse avoir une question orale avec débat. Pourquoi pas une interpellation? Alors ça dépendra du député, parce qu'il faut que la population puisse suivre réellement le débat. Et si, est-ce que ce contrat-là, on peut nous dire, est-ce que ça a été examiné au niveau de l'Assemblée nationale ou est-ce que ce sont des prérogatives qui se sont arrogées le simple gouvernement qui par la suite viendra. Donc il y a des questions comme ça que moi j'aimerais bien trouver les réponses et surtout une mise en garde pour dire si certains ont eu à décrier le contrat chinois parce que c'était défavorable pour la RDC, c'est pas le moment de refaire les mêmes choses.
Merci, Maître Frédéric Kwamba, est-ce que vous êtes là?
Je suis là, Monsieur Maté.
Bonjour, on n'a pas eu l'occasion de se saluer parce que vous étiez coupé.
Bonjour, Monsieur Maté, bonjour à tous.
Voilà, et on a suivi le ministre des Finances rejette en bloc les allégations des bradages de nos minerais par le gouvernement congolais au profit des Primera Gold. Mais les députés brandissent, les députés Alfred Maïcha brandit les décrets ainsi que les contrats qui octroient les monopoles à Primera Gold pendant 25 ans. Comment pourra-t-on savoir qui des deux parties dit la vérité?
Bon, moi je pense que il faut pas qu'on puisse courir très vite que le temps. Il y a eu un député qui a joué son rôle, c'est-à-dire il a soumis une question avec débat au niveau de l'Assemblée. Je pense que c'est ping-pong qui existe entre le ministre et les autres partis démontre qu'il y a quelque chose de flou. Parce que s'il n'y a rien et qu'il y a une accusation pareille, je pense que le ministre serait resté calme, attendre son invitation devant le Parlement pour s'expliquer au même moment devant les représentants du peuple et le peuple tout entier suivre ce qu'il pourra donner comme défense à cette accusation. Mais le fait pour lui de se lancer dans cet échange des conférences de presse devant les médias démontre qu'il y a quelque chose qui se cache. Et puis, s'il le nie, par exemple, il rejette tout en bloc. Donc, il rejette également la signature apposée sur le contrat. Et s'il rejette la signature apposée sur le contrat, donc ce contrat est nul, on ne peut plus en parler. Moi, je pense que c'est ça. Si moi, je signais un contrat, et ce contrat a des clauses qu'on peut m'opposer aujourd'hui, et les clauses renseignent dans des termes clairs qu'il y a exclusivité, qu'il y a monopole, si je me mets à nier l'existence de ma signature ou de ces contrats, automatiquement, nous disons que ces contrats n'ont jamais été conclus. Nous allons rester et puis abandonner le schéma du député élu de Bukavu. Moi, je pense que nous devons rester calmes, attendre que le ministre incriminé soit invité devant le Parlement et qu'il présente ce que nous appelons leur défense, leur moyen de défense, qui justifie. Parce qu'il s'agit quand même de la gestion de toute une république et qu'on ne peut pas gérer n'importe comment. Il y a certains types de contrats qui doivent nécessairement passer par le Parlement. Parce qu'aujourd'hui, M. Maté, moi je pense qu'on ne peut pas demeurer dans le sens de dire que nous visons plus la volonté politique de faire le bien ou la volonté de certains individus de faire le bien. Le niveau de volonté, ça importe peu. Dans un état sérieux, nous parlons des responsabilités et des obligations. C'est ce qui est important, parce que la volonté peut varier. Aujourd'hui, je peux vouloir faire du bien pour mon pays, et demain, je me réveille et je décide de faire du mal au même pays, parce que je suis humain. Mais si je dois respecter mes obligations envers ces pays-là, envers ces peuples, et puis ne me soumettre que à mes obligations, je pense qu'on pourra mieux faire que de rester dans ce débat qu'il y a aujourd'hui. Je pense que ça pourra aussi se passer comme l'histoire que nous connaissons du RAM, qui jusqu'aujourd'hui, on n'a pas de suite. Donc nous voulons que la gestion de la République, de la chose commune, soit un peu la gestion la plus sérieuse.
Merci. Merci Abdourahmane Dia. On reproche souvent aux États africains d'entretenir une inopacité totale quand ils concluent ce type de contrat. Cette polémique à laquelle on fait face n'est-elle pas née justement de cette opacité qui semble entourer ces dossiers?
Absolument dit. En fait, si on prend l'exemple en Afrique de l'Ouest, par exemple, en Guinée, il y a eu toute cette controverse sur le gisement de fer de Simandou. Au Sénégal, il y a également un mouvement de la société civile et des populations locales sur la zone de l'Est du pays où on exploite l'or. Il n'y a pas assez de transparence, généralement, c'est en tout cas le reproche qu'on fait aux différents gouvernements. Et je pense qu'il serait bénéfique à tout le monde qu'on permette à la société civile de faire son travail de veille. Il n'y a aucune raison que ces contrats miniers ne soient pas rendus publics ou en tout cas accessibles aux journalistes, à la société civile, aux chercheurs qui s'intéressent à ces domaines. L'Assemblée nationale forcément a un rôle crucial dans tout cela. Mais à part les contrats secrets de défense, moi je ne vois pas pourquoi ces contrats, surtout miniers, ne soient pas accessibles. Que ça évite tout soupçon et je pense que c'est une très bonne idée que les gens se continuent de se battre pour qu'il y ait plus de transparence dans cette question de l'accès aux informations liées aux contrats miniers.
Merci, on prend une petite pause avec Fernando de Abba et on revient tout de suite après. C'était Fernando, une chanson sortie en 1975 par ABBA, un groupe musical suédois qui a fait parler de lui vers les décennies 70 et 80. On revient à l'actualité de cette semaine. Les Burundi et la RDC ont conclu lundi 28 août au Palais de la Nation à Kinshasa un protocole d'accord bilatéral en matière de défense et de sécurité. L'objectif affiché est de renforcer la sécurité dans les deux pays. L'accord a été signé par Alain Tribert Mutabazi, ministre burundais de la Défense, et celui de la RDC Jean-Pierre Bemba. La cérémonie s'est déroulée en présence des présidents Évariste Ndayishimiye et Félix Tshisekedi. Peu avant, les présidents burundais et son homologue congolais ont échangé sur des questions infrastructurelles, commerciales et autres. Ils ont ensuite tenu une conférence de presse commune. L'accord militaire que les Burundi signent avec la RDC n'a aucunement l'intention d'interférer dans la mission que mène la communauté des États de l'Afrique de l'Est et assez en sigle, a précisé Ndayishimiye. Pour lui, la RDC et les Burundi sont comme l'écorce et l'arbre et donc ils doivent préserver leurs intérêts de manière commune. Abdourahmane Dia, vous êtes journaliste à La Voix de l'Amérique et présentateur de l'émission Washington Forum. Vous avez souhaité nous parler de la visite du président burundais Évariste Ndayishimiye en RDC et la coopération sécuritaire régionale. On vous écoute.
Alors Guy, en fait, je me suis intéressé à ce sujet en termes de comparaison avec, par exemple, ce qui se passe ailleurs, notamment en Afrique de l'Ouest. Ce qu'on constate souvent, c'est que la coopération directe entre deux États sur les questions sécuritaires peut des fois avoir plus de résultats que toutes ces négociations longues et périlleuses dans des organisations régionales où les intérêts peut-être divergent entre certains États. Si je prends le cas, par exemple, du G5 Sahel, qui est pratiquement mort aujourd'hui, il y a eu toutes ces rivalités internes, mais si le Ghana et le Burkina sont ensemble dans des patrouilles internes, des opérations antiterroristes internes, disons, entre les deux armées, on voit de grands résultats. Quand le Mali et le Burkina ou le Mali et le Niger étaient en opération conjointe, on voit aussi les résultats. Donc je pense que ce n'est pas mauvais de continuer les initiatives régionales, mais je pense qu'il est important aussi d'identifier les partenaires avec lesquels on peut aller pour combattre un fléau, un phénomène bien déterminé. Pour ce cas-ci, on parle du M23. Et rien n'exclut que la RDC cherche à avoir disons des alliances plus solides avec des pays qui sont prêts à l'accompagner si disons cela s'avère un peu trop lourd au niveau des institutions régionales. Donc je me dis que c'était une visite assez intéressante de ce point de vue là en tout cas en termes de comparaison pour moi, et on voit que les blocs régionaux sont un peu difficiles quand il s'agit d'aborder certaines questions. Puisqu'évidemment, il y a des intérêts divergents et il est parfois beaucoup plus efficace de le faire en nombre réduit, c'est-à-dire sur le plan bilatéral entre deux, trois pays qui voient le problème de la même manière. Je ne suis pas en train de dire que c'est le cas pour le Burundi et la RDC, mais je pense que les deux pays ont intérêt à ce que l'Est de la RDC se stabilise. Et en ce moment, on parle beaucoup plus de M23 et je pense que si le Kinshasa arrive à avoir des pays qui l'aident directement, ou en tout cas avec qui ils travaillent directement pour résoudre cette question, ce serait une bonne chose.
Bien que le président Ndayishimiye rassure que l'accord militaire que les Burundis signent avec la RDC n'a aucunement l'intention d'interférer dans la mission, n'est-ce pas, qui mène la force de l'EAC, Abdourahman Dia, quel pourrait être l'apport de cet accord dans les processus, notamment des cantonnements du M23? Vous venez de dire que la coopération bilatérale peut s'avérer plus efficace.
Alors, il faut simplement dire que pour moi, quand je vois ces accords, je vois plus le poids diplomatique. Je crois que je l'avais dit une fois en faisant référence à l'Afrique du Sud qui a un poids diplomatique au niveau de la SADC et que la RDC a besoin d'alliés. Disons, je me dis que si on voit que la RDC a des partenariats avec des pays comme le Burundi, ça peut faire bouger les lignes un peu. Et l'essentiel, c'est qu'on arrive au respect des engagements régionaux et que le cantonnement du M23 soit effectif. Et si on voit que la RDC est très active sur le plan diplomatique avec d'autres pays, peut-être que ça peut faire bouger les lignes au sein de différentes organisations comme l'EAC, comme la SADC. Donc, en référence également au processus de Nairobi, et tous ces processus qui, à mon avis, ne satisfont pas un peu Kinshasa. En tout cas, Kinshasa est toujours à la recherche d'une solution pour ce qui est de la crise dans l'est de la RDC. Donc, il n'est pas du tout une mauvaise idée d'aller dans le sens de la résolution de ce problème avec des États individuellement.
Élisée Odia, vous êtes journaliste indépendante. Est-ce que les Burundis peuvent se permettre de faire ce que l'EAC a jusque-là évité, aller jusqu'à utiliser ses militaires pour contraindre les rebelles du M23 à respecter leurs engagements?
Loin de moi l'idée de sous-estimer le pays frère du Burundi, mais au niveau de l'échiquier de la sous-région actuellement, c'est vrai que le Burundi essaye de jouer à ce pays neutre, mais il ne faut pas oublier qu'ici, en interne au pays, il y a pas mal de gens qui essayent d'assimiler le Burundi à l'Ouganda et au Rwanda en les pointant du doigt comme étant des pays qui déstabilise la partie est de la RDC. Mais c'est vrai que le Burundi, un peu moins que les autres, un peu moins que l'Ouganda et encore beaucoup moins que le Rwanda, mais il n'en demeure pas moins que dans la tête de beaucoup de Congolais, qu'ils soient politiques, intellectuels, il y a cette façon de dire que ces trois pays-là sont des pays qui ne nous veulent pas du bien, ne veulent pas du bien de la République démocratique du Congo. Donc ça c'est de un, et de deux, dire actuellement, comme je l'ai dit, que représente le Burundi actuellement, à mon avis, pas grand-chose au regard de la situation. Il faut, surtout, faut pas oublier que je crois que l'EAC est né au Burundi. Le Burundi est un peu le parrain de l'EAC et actuellement, le travail de l'EAC sur le terrain est décrié par la population, par tout le monde, par les politiques, par même le président de la République qui encore, lors de cette interview avec le président Ndayishimiye, est insisté pour dire que voilà, il n'appréciait vraiment pas la manière de procéder de l'EAC et que voilà, quand lors de la prochaine réunion pour statuer sur la prorogation ou non de la mission de l'EAC, il va être très très regardant. Donc le Burundi qui est parrain de l'EAC, qui n'arrive pas vraiment à influer, qu'est-ce que cela peut changer? Moi personnellement, pas grand chose. Et personnellement aussi, je dirais qu'il faudrait peut-être, au regard des relations un peu difficiles qu'on a avec certains pays voisins, de s'abstenir, par exemple, de signer pendant cette période certains protocoles d'accord, histoire de voir un peu plus clair qui sont avec la RDC, qui ne le sont pas. C'est aussi une façon de faire. Parce que là, avant, on nous a dit c'était le Rwanda. Après, vous avez dit le M23 est passé par l'Ouganda pour essayer de prendre les territoires au niveau de la RDC. Et donc, l'Ouganda serait complice, le Burundi. Je me dis, avec certains pays, beaucoup de pays, peut-être au niveau de l'EAC, mais au niveau de la sous-région, avant d'entamer, de signer, même si c'est juste un protocole d'accord, à mon avis, on poserait la question, je dirais, peut-être sursoir à ce type de signature et on attend un peu voir comment est-ce que les choses vont se dérouler sur le terrain.
Merci, Maître Frédéric Kwamba, membre de la société civile. Vous êtes avocat au barreau de Kinshasa Gombe, également membre du conseil d'administration de l'ONG Afyamama Asbel. On sait que les relations entre les Rwanda et les Burundi sont des relations, comme on dit, en dents de scie. Trouver dans la région un partenaire qui n'entretient pas de bonnes relations avec les Rwanda, est-ce un atout ou plutôt une faiblesse?
Moi, je pense que c'est un atout. Parce qu'il y a un principe qui nous dit que le plus souvent, l'ennemi de notre ennemi est notre ami. Pas forcément, mais le plus souvent. La RDC traverse une situation compliquée par rapport à la situation de l'Est. Mais cette situation de l'Est a été mûrie pendant des années, pendant que la RDC ou les Congolais étaient très distraits. Et c'est arrivé, nous en sommes où nous sommes aujourd'hui. Je pense que la démarche de nouer des relations avec les Burundis n'est pas une mauvaise démarche, d'autant plus que les Burundis font partie d'abord de nos voisins. Ça, c'est la première des choses. Et nous devons ambitionner aussi d'aller très loin, pas seulement avec les Burundis, mais avec plusieurs de nos voisins, parce que les frontières, on ne les effacera jamais. Nous resterons voisins, et l'histoire de l'humanité nous a aussi démontré d'ailleurs que la plupart des États qui se sont fait la guerre pendant des années ne se sont pas développés. Donc pour se développer, il faut avoir l'assurance de la sécurité et de la paix entre les États. Mais la chose qui semble un peu compliquée, c'est sur les intentions. Oui, les intentions. Si on revient sur les intentions, comme je vous ai entendu dire que les accords ici ne vont pas empiéter sur les accords avec l'EAC, moi je trouve que c'est aussi impossible, d'autant plus que et la RDC et les Burundis font partie de cette structure. Ce qui est impossible, il y aura toujours des interférences. Mais qu'à cela ne tienne, nous devons savoir ce que nous cherchons réellement. Et les Burundis aussi doivent éviter de jouer au malin, c'est-à-dire de ne pas nous présenter la vraie face ou ses vraies ambitions pour nous perdre le temps et nous amener tout droit dans un autre piège, comme il y en a eu tant. Ce n'est pas la première fois que la RDC échange avec les Burundis, c'est depuis des années. Alors, dire que la relation entre le Rwanda et les Burundis peut nous être bénéfique, je l'ai dit que c'est oui, C'est oui, parce qu'il faut être parfois opportuniste dans ce genre de conflits. C'est-à-dire qu'il faut voir qui peut être notre meilleur allié. Et un allié d'aujourd'hui peut ne plus l'être demain. Celui qui n'était pas hier peut ne plus le devenir. Mais aujourd'hui, si nous voyons que le Burundi vit à couteau tiré avec un État qui est ennemi à notre pays, je pense qu'il faut être opportuniste, essayer de saisir cette occasion, mais d'éveiller à ce que les accords qui seront signés soient respectés, comme en relation internationale, les principes, c'est le respect des accords. Donc, nous devons aussi avoir des garde-fous au cas où le Burundi ne respectait pas les accords que ferait la RDC, par exemple. Ça, ce sont des positions importantes au moment des accords pareils.
Merci. Merci. On va prendre une petite pause, hein, chères auditrices et chers auditeurs. L'actualité en RDC, c'est aussi l'actualité musicale. Comme vous le savez, l'artiste et musicien Gaz Mawete s'est produit ce samedi au terrain GD de Lemba, ici à Kinshasa. Nous allons donc écouter une de ses compositions intitulée Linganga, où il est en featuring avec Singila, et on revient juste après. Yeah, yeah.
Tant que je ne suis pas là, je suis été prendre soin de toi. Devant lui, n'importe quoi, il le fera à mon bébé. Mon petit frère est un bon gars, et je sors dans quelques mois. La prison, on oubliera, il faut qu'on tienne mon bébé. Je suis toute seule et juste en pleine de l'eau, je te confie à lui. Ici tout ça compte qu'avec le temps leurs chéris sont partis. Ah, même si parfois je te sens distante, c'est toi qui me permets de tenir, je suis prêt pour tout ce qu'on s'est dit. Oh bébé.
Ah meninganga, meninganga motema, linganga. Bébé sanga ma banzo, linganga. Meninganga motema, linganga. Oh my baby girl, meninganga. Meninganga motema, linganga. Meninganga, take it baby, linganga. Mon bébé, je commençais à la trouver vraiment belle. J'avais du mal à m'aider, tâcher d'elle. J'étais censé la protéger de tout danger avant que mon frère revienne. Amoureuse de moi et moi d'elle, folle de moi, fou d'elle. J'étais censé la protéger de tout danger avant que je ne revienne. J'ai pas prévu tout ça, j'ai pas été trop sage. Mon grand frère est un bon gars, pourquoi lui faire autant mal? Il est en prison pour moi, suis-je le fiable bébé? Oh, comme il y a eu vite, on a tout pensé à vie, sa famille. Ah non, coupé les lignes, les connards à Zawati. Ah, mon témoin dans la mawana, yembina, lili, la symphonie. Déjà tout soucié.
Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bienvenue dans cette émission Regard sur la société de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué la société de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire sur les dossiers primaires à God. Nous avons également analysé la visite du président burundais Evariste Ndayishimiye en RDC et la coopération sécurité régionale. Participe à cette émission, Maître Frédéric Kwamba, membre de la société civile, il est avocat au barreau de Kinshasa Gombe, il est également membre du conseil d'administration de l'ONG Afia Mama Asbel. Madame Élisée Odia, elle est journaliste indépendante et en ligne depuis Washington, capitale des États-Unis, Abdourahmane Dia, journaliste à la Voix de l'Amérique et présentateur de l'émission Washington Forum. Les enseignants des sous-divisions provinciales de l'EPST Ituri 1 et 3 menacent de boycotter la rentrée scolaire édition 2023-2024 prévue lundi 4 septembre prochain si leurs revendications ne sont pas prises en compte par le gouvernement. Ils ont pris cette décision à l'issue de leurs assemblées générales extraordinaires tenues respectivement à Komanda et à Mahagui. Ils déplorent le retard de paiement des 2 mois de salaire, l'éradication des zones salariales et la prise en charge des enseignants nouvelle unité. De son côté, la synergie des syndicats des enseignants de la RDC a recommandé au gouvernement de payer les nouveaux barèmes salariales pour une prochaine rentrée scolaire apaisée. Élisée Odia, nous sommes pratiquement à 3 jours de la rentrée scolaire 2023-2024 et vous voulez nous parler de cela. On peut savoir pourquoi.
Déjà parce que c'est un secteur qui me tient particulièrement à cœur, le secteur éducatif. Je me dis qu'on parle que très peu de ce secteur, mais surtout on a tendance dans notre pays et peut-être ailleurs aussi de faire du populisme autour de ce secteur aussi crucial qu'est l'éducation, qu'est l'enseignement. Aussi parce que je me dis que cette rentrée s'effectue alors qu'on est en train de continuer avec la publication des résultats de l'examen d'État, donc du bac, pour ceux qui nous suivent à l'étranger, alors que c'est quelque chose qu'on avait oublié depuis quelques années, parce que depuis plusieurs années, les résultats de l'examen d'État, alors des baccalauréats, intervenaient pendant les vacances et ça permettait et vraiment aux parents, aux élèves, aux futurs étudiants de pouvoir s'organiser. Mais malheureusement, cette année, pour des raisons, notamment il y a eu la grève au niveau de l'inspection générale, les correcteurs ne voulaient pas parce qu'il y a ce problème des arriérés. Je me dis, c'est un secteur où, comme je l'ai dit tantôt, qu'on aime brandir pour faire du populisme, mais on ne consacre pas autant de moyens, autant de temps, autant d'énergie pour essayer de faire de ce secteur le fer de lance du développement de notre pays. Il y a toujours ces problématiques des arriérés, on n'en finit plus. Il y a toujours cette problématique des différences salariales entre ceux qui dispensent les cours dans les milieux urbains et ceux qui sont dans les milieux ruraux. Il y a toujours cette problématique-là, ça ne finit pas. Donc c'était pour moi, et aussi parce que en début de semaine, personnellement, j'ai eu à traiter d'un sujet lié à ce secteur, s'agissant des retraités, et j'ai diffusé le coup de gueule de cette dame retraitée, enseignante, qui a donné cours. Il n'y avait pas qu'elle, mais il y avait beaucoup d'enseignantes et beaucoup d'enseignants qui fustigent le fait que la retraite n'est pas à la hauteur de leur engagement, n'est pas à la hauteur de leur rapport dans la vie de chacun d'entre nous. Donc moi, c'était un sujet, c'était pour une interpellation, pour dire, écoutez, l'éducation, c'est le fondement de toute société. C'est bien, on a aujourd'hui la gratuité de l'enseignement, mais ça ne suffit pas. Il faut aller au-delà. Il faut maintenant commencer à travailler sur la qualité de l'enseignement ici en République démocratique du Congo. Faut pas qu'on se leurre, on occupe la queue de peloton quand il s'agit de la qualité de l'enseignement, que ça soit en Afrique, au niveau de la sous-région, dans le monde, n'en parlons même pas. C'est-à-dire, au lieu de chaque fois qu'on brandit, dire oui, la gratuité, c'est bien, plus de 4 millions d'enfants qu'on a réussi à ramener, oui, c'est bien, mais martelons également sur la qualité, mais également sur l'amélioration des conditions sociales et des conditions de travail des enseignants. Le tout doit aller de pair. On ne peut pas essayer de faire une chose et de laisser un autre, non. Je crois qu'il faut créer une synergie autour des différents déshydratats auxquels fait face l'enseignement ici en République démocratique du Congo pour rehausser et redorer l'image de l'enseignement ici dans notre pays.
Merci Maître Frédéric Kwamba. Cette rentrée intervient ce lundi 4 septembre, nous l'avons dit. Et nous rappelons que nous sommes, si je ne me trompe pas, à la 3e année depuis que la gratuité de l'enseignement primaire est appliquée. S'il faut dresser un bilan à mi-parcours de la mise en œuvre de cette réforme, qu'est-ce que vous diriez, Maître Frédéric Kwamba?
Oui, je dirais que c'est quelque part un échec à 50% et une réussite à 50%. Pourquoi? Parce que d'un côté, on a réussi à retourner beaucoup d'enfants à l'école. Ça, c'est une évidence, on ne peut pas le nier. Mais de l'autre côté, c'est comme Élisée Audia venait de le dire, au niveau de la qualité de l'enseignement. Les enseignants qui étaient habitués à toucher un salaire qui était un peu suffisant, parce qu'ils se plaignent chaque année, se voient aujourd'hui avec plusieurs mois d'arriéré. Parfois ils sont impayés, parfois ils sont payés, mais le salaire est tellement insignifiant, ne sont plus en mesure d'assurer l'enseignement de qualité. Et tout ça, nous constatons au finish que c'est l'éducation qui est en train de dégringoler petit à petit. Alors, moi je pense que ce projet, ou moi je pourrais appeler ça un projet de la gratuité de l'enseignement, devait partir d'une manière échelonnée. C'est-à-dire, nous recensons d'abord le nombre d'enfants qui doivent être scolarisés, et puis nous recensons le nombre d'établissements que nous avons, le nombre d'enseignants qui devraient s'occuper de ces enfants, et puis on finit par budgétiser, parce que c'est ce qui est très important. Budgétiser, c'est-à-dire par exemple que nous avons maintenant un budget qui peut couvrir 5 ans par exemple. C'est-à-dire que les enseignants commencent cette année jusqu'à 5 ans, ils sont bien payés. Là maintenant, nous pouvons oser, parce qu'on ne blague pas avec l'éducation. L'éducation, c'est comme la colonne vertébrale. C'est ça même l'arme la plus redoutable pour changer le monde ou changer la situation du pays. Donc on ne peut pas blaguer avec. Il aurait fallu que l'on commence par dans le cadre d'un projet et que l'on étudie la faisabilité. Et une fois lancé, je pense que tout ce que l'homme fait, l'œuvre humaine a toujours des imperfections. Je pense que l'imperfection pouvait nous atteindre à un degré très minime, peut-être à 10% à 20%, au lieu que ce soit dans ce sens ici. Alors, autre chose est que chaque année, depuis que nous sommes à l'école primaire jusqu'aujourd'hui, avant chaque rentrée, les plaintes sont toujours là, les mêmes plaintes reviennent. Est-ce que nous n'avons pas de cerveau, les cerveaux suffisamment aguerris, qui puissent une fois pour toutes résoudre ces problèmes des enseignants? Est-ce que c'est impossible dans un pays comme le nôtre, qu'il y ait des gens qui peuvent s'asseoir et réfléchir comment éviter qu'à chaque moment où nous devons rentrer avant la rentrée scolaire, que cette musique de grève se répète? C'est un peu très ridicule pour nous tous qui avons étudié dans les mêmes situations, et nos enfants aujourd'hui étudient dans les mêmes situations. Nous devons quand même réfléchir et arriver ne plus qu'à résoudre ces problèmes, parce que c'est ça même la base de notre éducation.
Merci. Merci Abdourahmane Dia. Les dirigeants africains ont tendance à reconnaître l'importance de l'enseignant, mais peu sont ceux qui accordent des ressources importantes à l'éducation dans leur pays. Et à votre avis, pourquoi l'enseignant est traité un parent pauvre dans les pays africains?
Vous avez raison, mais c'est parce que l'enseignement demande beaucoup d'investissement. Et ça fait partie de ce qu'on appelle les investissements sociaux, et c'est vraiment l'avenir, alors que ces États sont souvent confrontés à des défis immédiats, et malheureusement, des secteurs comme l'éducation souffrent un peu du manque d'investissement quand il y a des priorités, comme la sécurité et autres. Mais je pense que c'est une grosse, grosse erreur, parce que s'il y a un taux de déperdition très élevé, c'est tous ces enfants qui n'ont pas la chance d'aller très loin dans leurs études sont un peu une bombe sociale pour le pays. Aucun pays, nous avons un continent extrêmement jeune, nous n'avons pas intérêt à ce que l'écrasante majorité de cette jeunesse n'est pas l'opportunité d'avoir une vie meilleure. Et aujourd'hui, pour avoir une vie meilleure, il faut un niveau d'éducation qui te permette d'accéder au marché du travail et de se battre et d'avoir les mêmes chances qu'un enfant de quelqu'un qui a les moyens. Et donc je pense que les États devraient investir davantage dans l'éducation, motiver davantage les enseignants. Les primes et ça, quand j'entends ma consoeur Élisée parler, j'ai l'impression d'être au Sénégal, qui est mon pays d'origine. J'entends les mêmes revendications chaque année, même s'il faut le reconnaître, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts, mais ça ne suffit pas. Ça ne suit pas un peu la courbe démographique et le niveau de, disons, de cette jeunesse qui a presque 60-70% de la population. Il faut qu'on y mette les moyens. C'est vrai qu'il y a toutes ces politiques des institutions internationales qui limitent un peu les investissements des gouvernements, mais on risque d'avoir un retour de bâton, je crains, parce que cette jeunesse-là, il faut qu'elle trouve du travail ou elle sera un gros risque sécuritaire pour la population. On le voit dans le Sahel, tous ces recrutements des djihadistes, ils ciblent les zones où la pauvreté est extrême et où il y a une absence de l'État. Et pour parler un peu de l'Est de la RDC, mais également du Sahel, il faut que ces États trouvent le moyen de sécuriser les enseignants. On a vu beaucoup d'enseignants, pour ce qui est du Sahel, que je connais un peu plus d'ailleurs, en tout cas, les gens quittent leur poste pour retourner dans les villes parce qu'il n'y a pas de sécurité, ils sont menacés par les djihadistes. Et c'est très dommage parce que ces jeunes qui sont dans ces zones-là méritent l'éducation. Donc il y a tout cela. Il faut revaloriser les salaires, il faut assurer la sécurité, il faut investir. C'est vrai que, bon, ça c'est le principe et tout le monde le dit, comme vous l'avez dit d'ailleurs, y compris les gouvernements. Il faut juste qu'on considère l'éducation comme étant aussi prioritaire que la sécurité, puisque dans 10 ans, dans 20 ans, ça va être vraiment un gros risque si ces jeunes-là n'ont pas les chances pour accéder au marché du travail comme les autres.
Merci, on prend une petite pause en écoutant École de Sarah Lula et on revient juste après.
Simba, tu es un enfant adoré. Évite trop tes dodos. Lève-toi tôt. Prends ton sac à dos.
C'était École de Sarah Lula qui, à travers cette composition, Sarah incite les enfants à aller à l'école. Je rappelle que nous avons dans cette émission Madame Élisée Odia, elle est journaliste indépendante, Maître Frédéric Kwamba, membre de la société civile, il est avocat au barreau de Kinshasa Gombe, il est également membre du conseil d'administration de l'ONG Afia Mama Asbel, et en ligne depuis Washington, capitale des États-Unis, Abdourahmane Dia, journaliste à la Voix de l'Amérique et présentateur de l'émission Washington Forum. 19 septembre au 8 octobre 2023, tous les candidats à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain sont appelés à se conformer aux exigences de la loi électorale par le dépôt des dossiers de leur candidature. L'électorat à l'élection présidentielle a été convoqué ce vendredi 1er septembre et un seul bureau de traitement de leur candidature sera ouvert au siège de la CENI à Kinshasa. Maître Frédéric Kwamba, vous avez proposé ces sujets en les formulant ainsi. Communiqué de presse CENI numéro 045/2023, convocation de l'électorat pour l'élection présidentielle. Les conditions des articles 100 et 104 de la loi électorale sont obscures quant à l'attestation justifiant d'une expérience d'au moins 5 ans dans les domaines politiques, administratifs ou socio-économiques. Et qu'est-ce que vous voulez nous apprendre, Maître Frédéric Kwamba?
Oui, Monsieur Maté, si vous pouvez vous réaliser ces communiqués, il vous renvoie aux dispositions des articles 100 et 104 de la loi électorale. Et ces dispositions nous donnent les conditions donc d'éligibilité, donc d'acceptation des dossiers des candidats présidents de la République en République démocratique du Congo. Et vous allez voir que les législateurs utilisent la conjonction « ou » à chaque fois qu'ils énumèrent une condition. Et soit ils sollicitent, ils demandent qu'on dépose les preuves d'avoir été dans une université ou dans un institut supérieur, et après ils vous disent « ou » le dépôt d'une attestation, c'est-à-dire justifiant que vous avez été dans les domaines politiques, administratifs ou socio-économiques. Alors, c'est là que je soulève le problème du flou artistique, qui n'est pas un fait anodin. Donc, on peut en déduire qu'en RDC, une personne qui n'a jamais été sur le banc de l'école peut être président de la République, à condition qu'il justifie avoir été dans un parti politique, par exemple, ou d'avoir été commerçant, ou autre, surtout que aucune loi en RDC ne définit les domaines politiques, administratifs et socio-économiques tels que énumérés ici dans la loi électorale. Donc, si nous voulons comprendre autrement, une personne qui a été huissier devant les bureaux d'un parti politique peut justifier, si son responsable parti politique atteste, l'atteste, et cette attestation-là en question et délivré par quel organe, par exemple, pour que l'attestation soit régulière et vraie et opposable à tout le monde. Est-ce par la maison communale? Non, parce que nos maisons communales n'ont pas dans leur compétence le pouvoir de délivrer les attestations concernant les particuliers, par exemple, de nous dire que tel, nous attestons que X ou Y a été dans tel domaine politique de telle année à telle année. Donc, on aurait dû avoir des textes clairs parce qu'il s'agit quand même d'un poste du président de la République. Aujourd'hui, tout le monde jette des pierres sur la CENI, alors que si nous regardons très bien, la CENI est victime des textes parce que ce n'est pas la CENI qui légifère. La CENI est bloquée quelque part parce que une personne qui dépose sa candidature, la CENI rejette, la Cour constitutionnelle, se basant sur les textes de loi, pourra retourner la personne et lui reconnaître le droit de postuler, ce qui constitue déjà un danger pour l'avenir de tout un pays où nous pouvons nous faire diriger demain après demain par quelqu'un qui n'a pas été sur le banc de l'école. Le sujet qui a précédé celui-ci, nous avons parlé de l'école, qui est la base même, la base de toute une population, de l'avenir même de tout un peuple, qui est l'essentiel en matière de succès, qui est l'essentiel en matière des attitudes des individus ou de comportements affichés envers ses proches ou envers les autres. Moi, je trouve que cette loi, elle est non seulement dangereuse, mais elle expose la commission électorale indépendante au moment de la réception de candidatures. Les autres points, nous pouvons que c'est normal quand on nous parle de la nationalité. C'est une évidence, c'est normal de faire le président qu'un Congolais. Et puis, on arrive à un point où on crée ce flou-là, que tout le monde peut se rêver aujourd'hui de devenir président et diriger un pays d'abord qui a des problèmes pareils. et puis on en crée d'autres dans les textes. Et c'est flou ici, vous allez le voir à plusieurs points. Même au niveau de la participation politique des femmes, vous allez voir que la nouvelle loi électorale n'a accordé aucun droit en violation même de l'article 14 de la Constitution qui prévoyait la parité au niveau de dépôt des candidatures. Mais vous trouvez qu'une loi électorale qui vous dit que non, un parti politique qui va déposer le liste paritaire ne payera pas uniquement la caution. Mais combien de partis politiques ont respecté? Aucun parti politique ne l'a respecté. Et vous allez constater qu'il y aura une faible participation des femmes. Donc, quand je reviens pour compter la CENI par rapport à ce texte, j'ai dit qu'elle est également victime, mais on peut juste lui reprocher, par exemple, le cas des cartes d'électeurs. Aujourd'hui, on fait faire le carte d'électeurs à nouveau, mais on n'a aucune garantie que jusqu'à la date de l'élection présidentielle qui est en vue, pour laquelle on vient de convoquer les candidats, nos cartes d'électeurs vont tenir, parce que nous les utilisons au même moment comme pièce d'identité. Donc, nous allons arriver à la date des élections et nous rendre compte que les cartes qui devaient s'effacer se sont encore effacées. Ça, c'est pas le problème de la CENI.
Merci.
Pour d'autres cas, reprocher à la CENI, moi, je trouve qu'elle est également victime. Elle a une grande charge de supporter les accusations et les reproches, pendant que c'est la loi elle-même qui l'a placée en difficulté.
Merci. Merci, Élisée Odia. La CENI convoque les corps électoraux pour l'élection présidentielle de décembre 2023. Et à votre avis, quels pourraient être les obstacles auxquels les potentiels candidats pourraient être butés à cette étape du processus électoral, à part évidemment les exigences contenues dans la loi, comme l'a relevé, n'est-ce pas, Maître Frédéric Kouamba?
Oui, mais il n'y aura pas que les candidats qui risquent de faire face à plusieurs obstacles, même nous. On en est déjà victime d'une manière ou d'une autre, mais je crois que le premier obstacle risque d'être la liberté des mouvements. Là, ça ne relève pas de la CENI, et comme vient de le dire tout à l'heure Maître Frédéric Kouamba, c'est que la CENI essaye de faire sa part. La CENI fait une course contre la montre. Les uns et les autres exigent de la CENI qu'elle respecte le délai constitutionnel. Donc là, on est en train de voir que la CENI essaie de faire ce qu'elle peut avec ce qu'on l'a donné, avec ce qu'on a, ce qu'elle a. C'est-à-dire en termes de loi, en termes de moyens. Et jusque-là, on croit en tout cas les responsables de la CENI, cette structure serait sur la bonne voie. Pour les candidats, comme je le disais, c'est d'abord la liberté. Parce que là, par exemple, au moment où hier, vendredi, nous avons appris, par exemple, qu'il a été interdit ou il y a eu des manœuvres pour empêcher, par exemple, le candidat Moïse Katumbi d'arriver ou de tenir, d'être accueilli à Kongolo. Il n'est pas le seul. Vous souviendrez qu'il y a quelques mois, il a dû faire face également à un refus au niveau du Congo central. Il n'y a pas que lui. Il y a des lycées Sanga, moi qui était également pour couvrir les activités ou suivre un peu les activités de ce candidat président dans le Kassai central. On a dû faire face à une violence gratuite et inouïe. Donc il y a la liberté, les libertés. Moi, les premiers obstacles, ce sont les différentes libertés. Liberté de se mouvoir, liberté d'expression et liberté de la presse, liberté des réunions. Voilà pourquoi j'ai mis ces libertés au pouvoir. Et ça relève du gouvernement de la République. Donc, autant la CENI est en train de faire sa part, autant le gouvernement, qui est un gouvernement démocrate. N'oubliez pas qu'à la tête de ce pays, nous avons le président qui est issu d'un parti qui est réputé comme le parti qui incarne la démocratie dans ce pays, et la démocratie a ses béabas, la démocratie a ses valeurs qu'il faudrait à tout prix défendre, sauvegarder, et elle se résume, la démocratie, ce sont les libertés. Et donc, moi, je me dis que le gouvernement doit faire un effort pour libérer l'espace démocratique, permettre aux idées des uns et des autres de se transmettre plus facilement, plus aisément, permettre aux uns aux autres de se mouvoir aisément, sans restriction, mais également permettre à nous, les journalistes, de faire sereinement et calmement notre travail. Et aussi une crainte. Pourquoi je parle des libertés? Vous vous rappelez, en 2018,
Il y a eu certains candidats, et je crois l'avoir dit également sur ce plateau, il y a eu certains candidats qui ne sont pas arrivés dans certains territoires, dans certains chefs-lieux. Il ne faut pas que ça se répète. Déjà qu'il y aura peut-être il y aura une bonne partie de l'Est qui ne va pas participer aux élections pour des raisons que l'on connaît. Il ne faut pas qu'il y ait certains candidats qui n'arriveront pas dans d'autres coins du pays pour telle ou telle autre raison. Et ça, c'est de la responsabilité du gouvernement. Le gouvernement doit tout faire pour créer un espace assez démocratique, apaisé, pour que les élections ne soient pas synonyme de la désintégration du pays, ce ne soit pas synonyme de la violence, mais ce ne soit juste le moyen de l'expression démocratique des avis des uns et des autres. Donc je martèle et je dis, les premiers obstacles à mon avis, ce sont les libertés, et nous espérons que le président, le gouvernement de la République fera en sorte que chacun de nous puisse jouir pleinement de ces différentes libertés pendant cette période.
Merci Abdourahmane Dia. Nous allons finir cette émission avec vous. Comment vous entrevoyez cette présidentielle de décembre 2023?
Alors, dans toutes les élections, malheureusement en Afrique, ce sont des périodes de tension. Et moi, je pense que une période électorale doit être une période normale où voilà, le processus se déroule. Certes, il y aura beaucoup de mobilisation et c'est de bonne guerre, mais je pense que le jeu politique doit être transparent et apaisé. Et il n'y a pas de raison que la tension monte à chaque période électorale. On le voit en RDC, mais on le voit également dans beaucoup de pays africains, y compris ceux qui sont présentés, entre guillemets, comme étant des pays stables. Donc, et moi, je ne vois pas de raison. Faisons carte sur table, soyons transparents et que chacun y ait accès, les personnes qui ont droit de participer, participent, et qu'il n'y ait pas voilà, une volonté d'empêcher un candidat de prendre part et vice-versa, que l'opposition aussi joue son jeu et que le peuple ait le dernier mot. Moi, c'est un peu une réflexion générale, parce qu'il n'y a pas qu'en RDC où les périodes électorales sont tendues. Donc j'espère qu'on aboutira à un processus apaisé et que le peuple ait le dernier mot. Voilà ce que j'avais à dire un peu sur ça.
Merci, c'est la fin de cette émission. Madame Élisée Odia, Maître Frédéric Kouamba et Monsieur Abdourahmane Dia, merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Merci aussi à Willem Lungamba qui était à la technique avec la participation d'Hervé Voka et de Debs Vita sous la supervision d'Alex Sommet et de Martin Sebujangwe. À la présentation, Guy Maté, merci et bon week-end sur Radio Kapi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 22h heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiokapi.net. On se sépare avec Parfait Nanga de Juna Janana, chanson sortie en 1983 dans l'orchestre Langa Langa Star. Et on se retrouve le samedi prochain.
Angela, 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 Polingwe sukina masolo, polingwe sukina maloba, Angelo bonge kwa midangere, analingi kwa viva, polingo, Ikambo bape kisaki na boya kikoyoka, Ikamali kweli kama na moto na yakalite, Na toka kite na boya, Angelo nangasa meatini, Wana vweme kwa midangere, analingi kwa viva,
Hospitalo nazwa kananga so ya monganga sisi ya bolingo mabe
sisi ya bolingo mabe na repete bolingo ide amokili etibika na ya tozala na ratifiri ya mawa na
kamali kweli nga mwana moto na yangali te
Apoka nite aboya,
zela na kanta meyadi Mwana preme komi dangere Kana lingi to vivre Kalito
Mama,
yo.